Ensemble.
Ici.
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 Ici. Radio Livre.
Radio Livre.
Radio, radio Livre.
La radio, radio des initiatives.
Bonjour et bienvenue sur le plateau de Radio Livre. Donc nous sommes aujourd'hui sur la place de la Libération à Nyons pour la journée Partageons dans le cadre de la quinzaine de la citoyenneté. Donc aujourd'hui, Radio Livre vous propose une émission dont les questions sont tout à fait ouvertes. C'est-à-dire que vous pouvez venir vous-même poser vos questions à nos invités. Et dans un premier temps, on va parler des réfugiés dans le Nyoncé, parce qu'il se trouve qu'il y a beaucoup de comités de soutien, beaucoup de personnes engagées pour soutenir les réfugiés dans le Nyoncé. Donc on a, pour cette première partie d'émission, on est aujourd'hui avec Sylvie. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Et Fatih.
Bonjour.
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 Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement en deux, trois mots tous les deux ?
Oui, alors moi je suis bénévole à l'association Carrefour des habitants. Et dans ce cadre, j'ai rencontré Fatih l'an dernier puisque je donne dans l'association des cours de français langue étrangère. Et c'est comme ça donc, que j'ai rencontré Fatih et puis sa famille quand elle est arrivée au mois de juin dernier. Voilà.
Sorry.
Can you introduce yourself?
Okay, I'm Fatih, I'm a Palestinian. I'm Fatih Khdirat, I'm a Palestinian refugee. I'm here in France become a refugee since about 1 year. And I'm in Lyon since about 1 year. Yes.
Okay, donc Fatih vient de dire qu'il est palestinien, qu'il est réfugié et qu'il est à Lyon depuis à peu près un an.
Et est-ce que tu es là avec toute ta famille?
Are you here with all your family?
Yes, they joined me recently, about 4 months ago.
Ils l'ont rejoint il y a 4 mois.
Okay. Super. Et tu es d'origine, du coup, palestinienne. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire pour toi être palestinien?
So you're from Palestine, so can you explain in a few words what it means for you to be Palestinian?
To be Palestinian, that means to be in the junction, to live in the junction of the world, to be surrounded by everybody and to be not allowed even to move from one place to another place inside your country.
Donc ça veut dire être à la jonction du monde et ne pas être au centre du monde et ne pas être en même temps autorisé d'aller d'un endroit à l'autre, d'un endroit où on habite.
We are living under the longest occupation ever in the recent centuries.
Donc ils vivent sous l'occupation la plus longue de tous les temps en histoire.
While everybody is talking about the human rights and freedom of movement and dignity and self-determination.
Alors que tout le monde parle de droits humains, de dignité, de
We faced in Palestine more checkpoints, more walls, more fences, more separation from the rest of the Palestinians and from the neighboring Arab countries.
Donc ils sont confrontés en Palestine à plus de contrôles, de checkpoints, de pression que n'importe où ailleurs, de séparation, voilà, merci, je me rappelle, que dans n'importe quel autre pays arabe.
In addition to all of these things, we have an authority which is collaborated with the occupation.
Et en plus de tout cela, ils ont une autorité qui collabore avec l'occupation.
I think as a French, you have a kind of experience with a government which used to be collaborated with the occupier.
En tant que Français, ils pensent que nous avons une expérience déjà d'un gouvernement qui a collaboré avec l'occupant.
Maybe what what's strange also, or what's make it more worse, that anybody from all over the world can visit Palestine, any Jewish from all over the world can go and live in Palestine, except the Palestinian who are not able to visit, for example, their holy places in Palestine or to come back to their homeland, Palestine.
Ce qui rend la situation aussi très étrange et particulière, c'est que tout citoyen dans tout le monde, qu'il soit israélien, enfin qu'il soit juif ou autre, peut venir en Palestine et se déplacer en Palestine comme bon lui semble. Seuls les Palestiniens ne sont pas autorisés à se déplacer dans leur pays, même pour se rendre sur les lieux saints.
while the world decided to get rid of Berlin Wall, for example, by the end of the Cold War, the Israeli occupation authority started to build a wall which is three times higher than Berlin Wall, five times longer than Berlin Wall.
Okay, alors qu'au moment même où on détruisait le mur de Berlin, les Israéliens commençaient à construire le mur en Palestine, qui est trois fois plus haut que le mur de Berlin et cinq fois plus long.
Three times higher and five times longer.
Et cinq fois plus long.
And if we talk about Palestine, of course, we are not talking about any other place, because Palestine is something important for all those who believe in messengers or in God or religion. No. And we are talking about an area which is located in the heart of the world. It's the junction of the world. It's the area between Asia and Africa, the south and the west, the north and the south. So it's an important place. So we should have peace in that important place.
Donc quand on parle de Palestine, on ne parle pas seulement d'un pays qui est important pour tous les croyants du monde, mais aussi d'un pays qui est à la jonction des trois continents asiatiques, africains et européens, et un pays bien sûr qui, ne serait-ce qu'à ce titre, devrait être un pays de paix.
So this is part of what that means to be a Palestinian.
Donc c'est en partie ce que cela signifie d'être palestinien.
Et être palestinien, ça a la même définition en Palestine et en France. Enfin, je veux dire, là, c'est un peu le statut d'un palestinien aussi en Palestine. Mais qu'est-ce que ça veut dire être palestinien en France ? Est-ce qu'il y a des gens qui rejoignent un petit peu cette cause et qui travaillent avec les Palestiniens ici ?
Okay, so you just talked about what it means to be a Palestinian in Palestine. Now, what is it to be a Palestinian in France? Are there people who join the cause and try to fight against this occupation and in France? What does it mean to be a Palestinian in France? That's a question.
It's another step of struggling against the injustice and against the occupation and against the dictatorship. So it should be like that for me. I'm not going to, or I'm not here in France to have a rest or to, you know, just to find a job. I'm here to spread my knowledge about non-violence, about human rights, about the rights of everybody to decide his future.
Okay, donc c'est aussi, ça veut dire aussi donc lutter contre toute forme de dictature, d'oppression, de violation des droits humains. Et il est ici aussi, non pas pour, il n'est pas venu ici pour trouver du travail ou pour se reposer, mais pour continuer ce combat et contre toute forme d'oppression.
C'est aussi un petit peu continuer le combat. Sur un autre pays, quoi.
So it means going and fighting in another continent, another country.
I used to come to France and to different countries all over the world to talk about Palestine, to spread the knowledge of non-violence and freedom actions against the occupation and against the dictatorship. And now I'm planning to do the same. Of course, I'm not going to give up.
Donc déjà, avant d'être réfugié, il parcourait le monde, il était dans plusieurs pays du monde pour répandre donc, cette idée de non-violence et défendre ses droits humains. Et il a bien l'intention maintenant de continuer à le faire ici et ailleurs.
It could be our turn as a Palestinian, and maybe our turn as an Arab in general, or as a Mediterranean. To share our knowledge about the freedom and our activity against what's going on in the Middle East. Because we should not leave that area as a forgotten area. It's not just our own responsibility. It's the responsibility of the international communities, the responsibility of Paris, as it's the responsibility of Washington and London. We are part of this world. all the world now become a small village. So everybody can talk to each other in the same time. Everybody have the right. He should have the right to travel. And even if there is borders, if there is smart machines, we can see that terrorists, they can cross the border and attack everywhere. So to spread the knowledge of peace and the knowledge of human right and the knowledge of equality everywhere is the only solution.
Donc, c'est notre, c'est en fait, c'est du devoir de chacun, et c'est au tour de chacun maintenant de répandre cette connaissance de ce qui se passe, en Palestine. Ça ne concerne pas uniquement les Palestiniens ou ceux qui y vivent, mais ça concerne le monde entier, surtout maintenant à une époque où le monde entier est devenu un village à cause des communications, qui se passe partout. Et donc c'est de la responsabilité de chacun, de chaque pays du monde, chaque gouvernement, y compris le gouvernement français, de s'intéresser à la question et de se battre pour contre cette occupation.
Just let us imagine what's going on in the Middle East now, in Iraq, in Syria, in Palestine, in Yemen, in Libya, in all almost the Middle East. We are in 2016 now. Just let us go back 100 years ago, 1916. We will find Europe living the same situation almost. 1916.
Oui, donc si on se reporte 100 ans en arrière, donc nous sommes maintenant en 2016, donc si on se reporte en 1916, il y a 100 ans, l'Europe déjà vivait dans la même situation, si on considère la situation des pays du Moyen-Orient, comme la Syrie, le Yémen, la Palestine, le Liban, l'Irak.
At that time, millions of Europeans, they are forced to leave their homeland, they are forced to leave their houses, they are forced to walk in maybe hundreds of kilometers at that time without food, without the clothes, without any kind of service. And at that time, you know, the Red Cross established. The Red Cross established. It's a kind of need. So we have the Red Cross now, we have the United Nations now. So we have to struggle all together from the head of the United Nations, from the president of the United Nations Humanitarian Office, the Red Cross, the Red Crescent, even the small NGOs and CBOs in the small towns like Nyons, we all should make a kind of alliance to protect the human right and to fight for human right together.
Donc, à cette époque, des milliers d'Européens ont dû quitter leur maison. Et à cette époque, donc, a été créée la Croix-Rouge, la Croix-Rouge qui existe encore et qui maintenant continue à se battre et à agir, même dans des petites villes comme Nyons, où il y a des antennes partout, pour cette même cause. Enfin, pour la cause de tous les gens déshérités qui subissent l'oppression partout dans le monde.
I think we have a lot of resources as a public, as an ordinary people.
Donc, je pense que nous avons beaucoup de ressources en tant que gens ordinaires, hein, publics.
Just we need to gather these resources and we need to march together.
Donc, on doit juste rassembler ces ressources et marcher ensemble.
Together we can do something.
Ensemble, nous pouvons faire quelque chose.
Ok. Et si tu avais une phrase à dire à tous les habitants de Lyon, à chacun d'entre eux, ça serait quoi?
And if you had just one sentence, if you had just one sentence to say to every to all the inhabitants of Lyon, or to each of one,
each
what
of
would
them.
That each of them, what would that sentence be?
I will say that just to stay a live nation. You are live, and just stay as part of the live nation. We must go together, hand on hand, shoulder on shoulder, against the aggression against the human right and violation of the human right everywhere, not just okay. in France.
Donc vous êtes une nation vivante, donc restez une nation vivante et marchons tous ensemble, main dans la main, épaule contre épaule, pour lutter contre toute forme d'agression des droits humains. Des droits humains, je crois.
Super. Merci beaucoup pour ce beau témoignage et ce beau message. On va faire une petite interlude avec un premier reportage qui est une interview de Claire Pirotte sur la situation globale des réfugiés.
Au lendemain de la signature de l'accord avec la Turquie.
Est-ce qu'on ne pourrait pas faire parler des Irakiens qui vont au jardin à Marseille maintenant?
Ok, bon, on passe d'abord du coup avec... avec les, du coup, des Syriens qui, ouais, petit contretemps, et on écoutera le reportage plus tard. Merci, en tout cas.
Alors, je vous demande de bien vouloir vous asseoir à notre table. Alors, vas-y, je continue. Bonjour. Alors,
bonjour.
Deux nouvelles personnes viennent de nous rejoindre sur la table de Radio Livre. Donc, je rappelle encore une fois, si jamais il y a des questions à poser, le micro est à vocation à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à venir prendre la parole et poser des questions à nos invités. Alors, je vais vous demander de vous présenter l'un et l'autre aujourd'hui.
C'est Monsieur Lokman Darwish, qui est le père de la famille syrienne. Et moi, je suis la traductrice. Voilà, c'est ça. Ok. Il attend que je parle.
D'accord. Ouais.
فيك تقول اسمك قرب بدك تقرب تمك لهون هيك يعني
مو لوكمان درويش سيري وي ال 3 زونفو وي
Et je comprends pas ce qu'il dit. J'entends pas. Quand je suis à côté du micro, j'entends pas ce qu'il dit.
D'accord.
En français, je ne sais pas.
Je dis en arabe et je traduis. Mais قرب. قرب بعد.
اسمي لقمان درويش. عندي 3 ولاد.
Je m'appelle Lokman Darwish et j'ai 3 enfants.
اسم زوجتي دلبر راسو.
Ma femme s'appelle Dilbert Rasto.
Oui. جينا من قامشلي جينا من قام سوريا على قامشلي وبعد من سوريا جينا على تركيا ضلينا 3 سنين من 2013 جينا على تركيا.
Stop, ta Alors, ils ont quitté Amishli, qui est une grande ville du nord de la Syrie, et qu'ils ont dû quitter depuis 3 ans pour aller se réfugier en Turquie. Ils viennent d'arriver récemment, ils sont arrivés en juillet ici.
Baden, Hunik, Makante, Anne Scholl, Makane Scholl, ou Maf Scholl, Yanni Hayat Sabe, Hunik de Turquie.
Il n'y avait pas du tout moyen de travailler en Turquie. D'ailleurs, je crois que c'est interdit pour les adultes réfugiés. Et donc, c'était très difficile pour eux de survivre.
بعدين سجلنا حالنا بالأمم المتحدة وجينا على فرنسا الحمد لله ونحن بخير الحمد لله وشكرا لكم.
Ils ont été s'inscrire au bureau des Nations Unies en Turquie. Et c'est comme ça qu'ils sont enfin ici et qu'ils remercient tout le monde et qu'ils vont tous bien et ils sont ravis de ça. Tu as des questions?
Et est-ce que vous avez le statut de réfugié déjà ou oui. C'est en cours?
Oui, ils sont déjà réfugiés. مغتربين ك
اوراق
اوراق كلاجئ
ايه في عندنا اوراق في عندنا كل شيء
oui oui ils ont les papiers sont faits
avant d'arriver à Lyon
disons que c'est les services qui sont à l'ambassade en Turquie qui se sont occupés déjà de faire le grand déblayage avant de faire venir les familles.
Et en Turquie, vous habitiez toute la famille ensemble ?
أول شيء إن إحنا جينا على تركيا وبعدين ابني الكبير ضلت هناك وبعدين من شهرين ثلاثة يعني هو كمان وصل لعنا.
Au début, ils sont partis et son fils aîné n'a pas pu suivre. Et ils ont dû attendre quelques mois pour qu'ils puissent être avec eux.
Et ça fait quelques mois maintenant que vous êtes en France, à Nyons. C'était la première fois, votre première étape en France, c'était directement à Nyons. Vous êtes passé par d'autres villes avant d'arriver ici.
Ils sont arrivés directement, on a été les accueillir à l'aéroport.
À l'aéroport de Nyons ?
Non, de Marignane.
Et est-ce que tes enfants sont scolarisés ici ?
Oui.
Oui, il y en a à l'école. La jeune fille est au collège. Et le jeune homme est aussi dans un lycée.
Super. Et est-ce que vous vous sentez chez vous ici ?
Je vais lui dire ça.
À la maison, quoi.
Mni ahmed kanou bbaytak.
Alhamdulillah, mleh, alhamdulillah.
Oui, grâce aussi. Nous
fakhourin fikoum lanou stakbeltouna. Mabsoutine ktir, alhamdulillah.
Il est dans le remerciement et très reconnaissant d'avoir été accueilli de cette façon.
Et est-ce que c'est pas difficile de d'apprendre à vivre dans un autre endroit.
Il dit que non, ce n'est pas difficile. Il remercie le ciel d'avoir eu cette chance et qu'il est très content, lui et sa famille.
Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient poser des questions à nos invités ?
Il y a Anne. Après, tu viens, Anne.
Ou dire quelque chose, un mot
ouais.
Non ? Ok. Ouais. Pas de questions ? Ok. Est-ce que vous voulez dire quelque chose, un message à faire passer aujourd'hui? Peut-être poser la même question qu'on a oui. posée à Fatih okay. avant. Si okay. vous aviez quelque chose à dire à un avec citoyen français.
شكرا لكم وبأهل النيوس كلها ونحن مبسوطين بيناتهم والحمد لله.
Il remercie tout le monde à Nyons. Il remercie l'accueil et il est ravi d'être bien là maintenant, tranquille.
Merci.
Radio Lille, la radio des initiatives.
Bonjour, nous sommes de retour sur le studio radio de Radio Libre à l'occasion de la journée Partageons sur la place de la Libération à Nyons et, je le rappelle, en direct depuis le site ensembleici.fr. Voilà, et donc aujourd'hui, nous continuons notre série sur les réfugiés et je vais demander aux trois personnes qui sont devant moi de se présenter les unes après les autres.
Bonjour. Oui, c'est bien. Bonjour, je m'appelle Anne, je suis réfugiée d'Irak. Je viens d'Irak en 2015 et maintenant je suis un an ici en France. Oui, en septembre 2015.
Merci. C'est Colette. Je fais partie du comité d'accueil de Vinsobre qui a accueilli la famille marocaine en mai 2015.
Voilà, moi je suis Bella, je fais aussi partie du comité de Vinsobre. Et nous avons accueilli dans un premier temps Raad et sa famille. 6 personnes, et ensuite sont venus les rejoindre les neveux et nièces, Anne et Saïf, en septembre. Voilà. Et on est le comité qui a essuyé les plâtres de l'accueil dans le coin.
Et est-ce que c'est possible de revenir un petit peu sur cet accueil? Le comité, c'est surtout des bénévoles, et après, il y a les familles qui arrivent avec beaucoup de personnes. Comment s'est passée la première rencontre entre les familles de réfugiés et le comité d'accueil?
Nous sommes allés les chercher à Marseille, où ils sont restés à peu près 4 mois dans un tout petit logement. Et ils étaient très heureux de descendre à Vinsobre. Et le comité s'était formé depuis quelques mois et était là pour les accueillir. Et ça s'est bien passé parce que ça avait été préparé quand même à l'avance.
Et pour toi, Anne, comment ça s'est passé quand tu as rencontré la première fois le comité d'accueil aux réfugiés qui ont fait un peu ce travail pour bien vous accueillir?
Le comité a aidé nous beaucoup. Il a fait tous les papiers pour nous. Il a amené nous à toutes les places pour faire le papier. Ouais, il a aidé nous beaucoup.
Ils sont gentils?
Ah oui, tout le monde est très gentil.
On ne sait jamais. Je ne peux pas dire le contraire.
Et du coup, toi, du coup, Anne, ça fait un an que tu es arrivée à Nyons. Comment ça s'est passé depuis ton arrivée? Est-ce que tu te sens plus... comment dire? Est-ce que tu te sens plus chez toi maintenant que quand tu es arrivée?
Dis où tu étais quand tu es arrivée, puis maintenant.
Quand j'arrive, c'est très difficile parce que je ne connais pas la langue. C'est très difficile pour nous parce qu'en Irak, nous ne parlons pas le français, pas à l'école, pas. Le comité il a aidé nous pour prendre le français aussi. Ouais.
Tu habitais à Vinsobre?
Quand je viens en France, j'habitais à Vinsobre par 6 mois. Et après, je fais le ménage à Nyons.
Et tu habites avec toute ta famille?
À Vinsobre, j'habitais avec mon oncle et sa famille. Et maintenant, j'habitais avec mon mari à un petit appartement.
Au foyer
logement.
Et en fait, je me permets de préciser, c'était la première fois qu'ils vivaient seuls en couple. Ils étaient mariés depuis plus d'un an et c'était la première fois qu'ils avaient l'occasion de voir ce que c'était la vie en couple.
Super. Et alors, ça se passe bien?
Oui, ça passe très bien.
Super. Et le fait d'arriver dans un nouveau pays comme ça et d'être avec toute la famille, comment vous faites pour continuer à vivre votre culture, c'est-à-dire... Est-ce que vous arrivez à vous y retrouver au niveau de la musique, de la danse, de la nourriture? Comment vous faites au quotidien? Est-ce que vous vivez à l'irakienne ou est-ce que vous vivez à la française?
Oui. Je vivais comme je vis en Irak, c'est la même musique, je écoute la même musique, c'est la même, c'est pas très différent, pas seulement c'est la langue et la nouvelle personne.
Ouais. Pour la nourriture, tu manges à la française ou à l'irakien?
Non, je mange l'irakien.
Pardon pour l'expression à la française, c'était pas très correct.
Dis ce que c'est ton projet de vie. Ce que tu veux faire.
Moi, je fais le CAP cuisine. Je veux faire le CAP cuisine. Et moi, j'aime beaucoup pour travailler à la restaurant.
Ouais. Pour ouvrir ton propre restaurant?
Oui.
Alors, dis où tu as travaillé déjà.
Tu as fait des stages.
Mais raconte tes stages.
Je fais deux stages à la restaurant de piscine et je fais un autre stage à la restaurant de crocodile.
Super. N'hésitez pas à poser des questions avec le micro. Hein.
Pour sa formation de CAP cuisine, il est prévu qu'elle aille à la maison familiale rurale de Bulles-et-Baronnies à la rentrée prochaine, au mois de septembre. Et en attendant, qu'est-ce que tu vas faire bientôt là, pour apprendre le français?
Je fais un stage à Greta. C'est un stage pour apprendre le français. C'est peut-être par 4 mois ou 6 mois. Ouais.
Des cours intensifs de français
À partir de novembre.
D'accord.
Sur 6 mois.
Et tous les réfugiés qui sont arrivés dans le Lyoncé ont bénéficié de cours de français?
Oui.
Dès que les réfugiés sont arrivés en mai à Vinsobres, on a essayé de mettre en place des rencontres. Ce n'était pas des cours très formels dans un premier temps, mais un certain nombre de personnes du village, pendant l'été, se sont relayées chaque jour pour essayer de faire parler tout le monde, enfin de prendre contact avec la langue française. Mais ce n'était pas vraiment structuré. Après, l'apprentissage s'est plus structuré grâce à l'aide du nouveau Carrefour des habitants, à l'époque Association familiale du Lyoncé. Et là, c'était des vrais cours de gens qui étaient un peu plus spécialisés. Voilà. Et depuis, on les incite à continuer l'apprentissage du français.
Et comment ça se passe, les relations entre les bénévoles de ces comités d'accueil et les membres des familles accueillies? Est-ce que vous vous entendez bien entre vous, la famille marocaine, et les bénévoles du comité de soutien? Est-ce que parfois il y a des petits points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous êtes tout le temps tout d'accord? Voilà, ma question elle est là.
Si je peux répondre. À ce niveau-là, on n'a pas tout à fait le même mode de fonctionnement. Nous, on souhaiterait qu'ils nous disent ce qui ne va pas, ce qui ne leur correspond pas. Et ils ont du mal à dire ça, comme ils se sentent redevables. Ils nous disent merci, non, tout va bien, tout va bien. Ils disent oui, et après, c'est pas vrai, quoi. On s'aperçoit bien qu'il y a des choses qui coincent. Et du coup, ça, c'est un peu difficile. On fait des réunions régulières où on dit dites-nous, hein, où on leur demande de dire ce qui ne va pas et on n'arrive pas à le savoir, quoi.
Mais c'est évident qu'il y a une différence de culture.
Oui, alors je dois m'en aller, mais ce que je veux dire, c'est que même si c'est parfois difficile, c'est très riche d'accueillir des gens et ça rend humble.
Bon, on est désolé d'ailleurs pour la musique, il y a le trio. Le trio Hicham Elissaoui là qui joue tout à l'heure et qui est obligé de faire ses balances pour pouvoir être prêt pour leur concert. Peut-être juste une question sur le type de relation que vous entretenez avec ces comités de soutien. Est-ce que vous les voyez régulièrement? Dans quel cadre est-ce que vous voyez ces bénévoles? Et quelle place finalement ils ont aussi dans votre vie tous les jours ici en France? Peut-être dans le micro.
Nous avons des rencontres à peu près une fois par mois pour faire le point sur tout ce qui se passe. Mais entre-temps, il y a quand même des contacts parce qu'il y a des rendez-vous qui sont pris pour Pôle emploi ou pour d'autres organismes. Donc on a l'occasion de les rencontrer.
Merci.
Radio Libre.
Bonjour et re-bienvenue sur le studio de Radio Livre en direct de la place de la Libération à Nyons à l'occasion de la journée Partageons et en direct sur ensembleici.fr pour ceux qui nous rejoignent. Donc on va continuer notre thématique filet de l'après-midi qui traite des réfugiés dans le Nyoncé. Et donc on est aujourd'hui avec deux personnes qui vont nous présenter les comités de soutien pour l'accueil des réfugiés et également la plateforme CARDAV qui met en lien un petit peu tous ces comités. Est-ce que vous pouvez vous présenter l'une après l'autre?
Bonjour, Claire Pirotte, je suis un peu à l'initiative de la création du comité citoyen de Nyons pour les réfugiés autour de la mairie de Nyons qui a mis depuis un an un appartement à disposition d'une famille de réfugiés.
Merci. Voilà. Colette Sénéclose, je fais partie du comité d'accueil de Vinsobres. Et comme on a accueilli en mai 2015 et qu'on a eu beaucoup de galères au niveau administratif, quand d'autres comités se sont constitués, ils nous ont demandé un petit peu quelle démarche on avait eu à faire. Et c'est ce qui nous a donné l'idée de créer une plateforme des comités. Le CARDAV, c'est donc le comité d'accueil des réfugiés Drôme Ardèche Vaucluse.
D'accord. Et cette plateforme, elle comprend combien de comités?
Environ 16 actuellement. Peut-être 18 ou 19 dans les semaines qui viennent, puisqu'il y a aussi le comité d'Alex qui nous a rejoint au nord de Cré, là où il y a tant de problèmes avec des partisans du Front National qui s'opposent de façon très visible à l'accueil de réfugiés en transit venant de Calais, et puis jusqu'à Rosan, où il y a un petit village qui accueille une famille, plus une femme irakienne et sa fille dans un monastère de religieuses, plus deux Soudanais, le Carpentras qui est très actif, enfin, on rayonne de façon large et on se réunit à la fois pour échanger les informations et aussi pour faire des moments festifs qui soient organisés à la fois par les accueillants et par les accueillis. Et il y aura le dernier dimanche de janvier la deuxième fête de la fraternité à Buis-les-Baronnies qui est un peu centrale par rapport à la localisation de tous ces comité.
Comme par exemple, il y a eu un événement début juin organisé par le CARDAV à Carpentras.
C'est le comité de Carpentras qui a invité tout le CARDAV. Oui, ils ont carrément loué l'hippodrome et toute la journée a été festive, joyeuse, avec des jeux, des danses, de la musique. Une grande réussite.
Et en ce qui concerne l'événement de la fête de la fraternité, ça va être quoi au programme? Pareil, musique, danse, des conférences?
On ne sait pas encore, on va l'organiser en novembre. A priori, oui, ce sera. Mais pas trop de conférences, ou alors avec des traductions. On va essayer de faire un équilibre entre le festif et l'information.
Et comment ça se passe, cette co-organisation entre accueillants et accueillis?
Nous commençons juste cette expérience.
D'accord.
Donc je ne peux pas vous répondre encore.
Ça va.
Et au niveau de la plateforme, tous ces comités n'ont pas encore forcément des réfugiés. Il y a des comités qui sont en cours de constitution, il y en a qui sont prêts à accueillir mais qui n'ont encore personne. Il y a plusieurs cas de figure.
Voilà. Il y a Tolignan notamment qui est en train de vraiment se structurer.
Et ils sont prêts.
Ils sont prêts, voilà. Et ils attendent des réfugiés pour novembre à peu près.
Et du coup, comment ça se passe quand on veut accueillir des réfugiés chez soi, dans sa ville? Quelles sont les étapes à suivre jusqu'à l'arrivée et même après, plus tard?
Alors là, c'est un long parcours du combattant. Soit il y a la filière du diaconat protestant qui s'occupe surtout d'Irakiens. Soit il y a depuis janvier 2016 la filière du ministère de l'Intérieur dirigée par un super préfet qui a la pêche, ce qui n'est pas toujours évident, qui s'appelait Jean-Jacques Brault, extrêmement dynamique et qui va visiter tous les comités étant capable d'accueillir lui-même avec son équipe pour savoir qui il envoie, les personnes envoyées étant provenant toujours de camps de Turquie et Liban. Et c'est là-bas qu'il y a aussi beaucoup d'attentes pour que l'OFPRA organise l'état civil, les papiers, etc. Et quand on passe par la filière du préfet Brault, c'est assez extraordinaire parce qu'il a une aura sur les services administratifs français et que nous, par exemple, avec la famille syrienne, on a réussi à faire en 6 semaines tous les papiers en France, là où les autres comités mettent 8 ou 9 mois. Donc il y a vraiment une organisation qui est en train de se mettre en place, aussi bien au niveau gouvernemental. L'idéal, c'est d'avoir une mairie qui nous soutient, parce que c'est ne serait-ce que pour prêter des camping-cars pour emmener tout le monde à Grenoble, à Valence, ou des salles pour les fêtes, les réunions. Et puis nous, à Nyon, c'est un appartement gratuit, c'est quand même formidable. Et également, la sous-préfecture est très active avec un sous-préfet qui nous soutient beaucoup.
Ce qui est très important, d'avoir localement une oreille attentive.
Ah oui. Ah oui, c'est fondamental. Mais on est dans un cas de figure très positif, hein, ici.
Beaucoup de bonne volonté.
Beaucoup de bonne volonté de toutes parts, gouvernementale et bénévole.
Et du coup, moi, je me demandais comment on fait pour sélectionner les familles qui vont venir ici, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent dans ces camps.
Alors ça,
comment
c'est
ça
le mystère absolu.
Voilà.
On ne sait absolument pas sur quels critères se base l'OFPRA dans les camps pour adresser telle famille plutôt que telle autre.
Est-ce qu'on peut expliquer rapidement l'OFPRA pour ceux qui ne connaissent pas ?
L'OFPRA, c'est l'Office français des réfugiés et des apatrides qui a un rôle pour toute acceptation de réfugiés sur le territoire français, quel qu'il soit réfugié de guerre, réfugié politique, pas, et éventuellement réfugié économique. Mais depuis janvier 2016, il y a des bureaux de l'OFPRA à l'intérieur des camps en Turquie, et ça active beaucoup la lenteur des papiers administratifs et du visa pour rentrer.
D'accord. Et si on peut revenir un petit peu sur le CARDAF, du coup, qui est cette plateforme de comité d'accueil de réfugiés, quels sont les points communs ou les obstacles un peu communs à tous ces comités de réfugiés? Quels sont les problèmes qu'ils rencontrent, chacun d'entre eux?
Ben, on a commencé par faire une charte commune, voilà. Ce qui a été extrêmement important, parce qu'on s'est basé sur les droits de l'homme, sur les conventions de Genève, et nous avons bien précisé dans la charte qu'il n'y avait aucune différence de sexe, de race et de religion, ce qui a éliminé quelques comités qui, eux, voulaient recevoir uniquement des chrétiens, par exemple. Et ces comités-là, on ne les a pas acceptés, parce que ce point central, c'est un point citoyen, ce qui fait qu'on ne rencontre pas beaucoup de problèmes entre nous. On est vraiment sur la même longueur d'onde, quels que soient les réfugiés qu'on accueille. Il y en a il y a des Soudanais, des Afghans, des proches orientaux. Le problème de la nationalité d'origine n'est pas un problème. Il y a des CADAS, c'est-à-dire des centres de demandeurs d'asile qui ont des problèmes de papiers totalement différents de nous qui avons reçu des gens qui avaient déjà le droit d'asile. Ouais. Et on est plutôt là pour s'entraider, échanger les tuyaux, les noms et les responsables intéressants et intelligents au sein des institutions. Donc on n'a pas de problème pour l'instant.
Encore quelque chose qui fonctionne bien.
Oui.
Du coup, l'accueil des réfugiés, c'est une jolie aventure dans ces cas-là.
Formidable.
Tout à fait. Ouais.
Formidable.
Et il y a une bonne réception de la part de la population dans les comités de ce que vous pouvez voir en tant que personne engagée pour l'accueil de ces réfugiés. Est-ce que...
Je dois dire que pour Nyons, où il y a maintenant 4 familles qui résident, on n'a eu aucun mouvement de rejet, paroles racistes, etc. À Vinsobre, je ne sais pas.
Enfin, il y a certains villages où le comité d'accueil aux réfugiés ne fait pas l'unanimité, mais ce ne sont pas des conflits ouverts.
Voilà.
Ce n'est même pas des conflits, mais il y a des gens qui ne s'y intéressent pas, mais pour l'instant, il n'y a pas d'opposition radicale.
Il n'y a que à Alex où il y a eu le problème.
Oui, et encore, il faut voir, c'est un peu les médias qui ont traduit des choses.
Mais il faut relativiser un peu.
Oui, parce que la manifestation, là où il y avait beaucoup de gens du Front National, je connais des gens qui y ont participé, et ce n'étaient pas des gens d'Alex, c'était des gens de l'extérieur. Voilà. Donc c'est quand même des opérations qui sont montées aussi, pas forcément par les gens du coin.
Oui.
Et du coup, on peut aussi se poser la question du regard des médias, par exemple, sur ces actions d'accueil. Est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il met en valeur des médias locaux ou nationaux?
Les médias locaux se sont chargés d'informer, voilà, mais sans aucun jugement de valeur.
Bon, je pense que c'est le but des médias. Ils transmettent l'information.
Et puis c'est tout.
Bon. Eh bien, je vous remercie beaucoup.
Merci Radio Libre.
Et puis on va passer aux balances.
Donc ouais, merci à tous. Et puis vu qu'il y a les balances du coup du trio qui vont commencer, on va arrêter l'après-midi ici. En tout cas, c'était très intéressant de tous vous avoir autour de cette table, d'avoir autant de familles aussi qui étaient présentes en début d'émission. On termine là-dessus. Merci beaucoup à vous deux et merci à tout le monde.
Au revoir.
Ensemble, ici, Radio Livre,
la radio des initiatives.